Lettres écrites d'Égypte et de Nubie en 1828 et 1829 par Jean-François Champollion. Deuxième partie de 2 de l'appendice. Les Égyptiens n'avaient point un système monétaire semblable au nôtre. Ils avaient pour le petit commerce intérieur une monnaie de convention. Mais pour les transactions considérables, on payait en anneaux d'or pur, d'un certain poids et d'un certain diamètre, ou en anneaux d'argent, d'un titre et d'un poids également fixes. Quant à l'état de la marine à cette ancienne époque, plusieurs notions essentielles nous manquent encore. L'Égypte avait une marine militaire, composée de grandes galères, marchant à la fois à la rame et à la voile. On doit présumer que la marine marchande avait pris un certain essor, quoiqu'il soit à peu près certain que le commerce et la navigation de longs cours étaient faits en qualité de courtier par un petit peuple tributaire de l'Égypte et dont les principales villes furent Sour, Saïd, Beyrouth et Acre. Le bien-être intérieur de l'Égypte était fondé sur le grand développement de son agriculture et de son industrie. On découvre à chaque instant, dans les tombeaux de Thèbes et Saqqara, des objets d'un travail perfectionné, démontrant que ce peuple connaissait toutes les aisances de la vie et toutes les jouissances du luxe. Aucune nation ancienne ni moderne n'a porté plus loin que les vieux Égyptiens la grandeur et la somptuosité des édifices, le goût et la recherche dans les meubles, les ustensiles, le costume et la décoration. Telle fut l'Égypte à sa plus haute période de splendeur connue. Cette prospérité date de l'époque des derniers rois de la 18e dynastie, à laquelle appartient Ramsès le Grand ou Sésostris. Les sages et nombreuses institutions de ce souverain terrible à ses ennemis, doux et modéré envers ses sujets, en assurèrent la durée. Ses successeurs jouirent en paix du fruit de ses travaux et conservèrent en grande partie ses conquêtes, que le quatrième d'entre eux, nommé Ramsès Meyamoun, prince guerrier et ambitieux, étendit encore davantage. Son règne entier fut une suite d'entreprises heureuses contre les nations les plus puissantes de l'Asie. Ce roi bâtit le beau palais de Medineh Habu, à Thèbes, sur les murailles duquel on voit encore sculptées et peintes toutes les campagnes de ce pharaon en Asie, les batailles qu'il a livrées sur terre ou sur mer, le siège et la prise de plusieurs villes, enfin les cérémonies de son triomphe au retour de ses lointaines expéditions. Ce conquérant paraît avoir perfectionné la marine militaire de son époque. Les pharaons qui régnèrent après lui firent jouir l'Égypte d'un long repos. Pendant ces temps d'une tranquillité profonde, l'Égypte, tout en laissant s'assoupir l'esprit guerrier et conquérant qui l'avait animé sous les précédentes dynasties, dut nécessairement perfectionner son régime intérieur et avancer progressivement ses arts et son industrie. Mais sa domination extérieure se rétrécit de siècle en siècle à cause des progrès de la civilisation qui s'étaient effectués dans plusieurs de ces contrées par leur liaison même avec l'Égypte, celle-ci ne pouvant plus les contenir sous sa dépendance que par un développement de forces militaires excessif et hors de toute proportion. Un nouveau monde politique s'était en effet formé autour de l'Égypte. Les peuples de la Perse, réunis en un seul corps de nations, menaçait déjà les grands royaumes de Ninive et de Babylone. Ceux-ci, visant à dépouiller l'Égypte d'importantes branches de commerce, lui disputaient la possession de la Syrie et se servaient des peuples et des tribus arabes pour inquiéter les frontières de leur ancienne dominatrice. Dans ce conflit, les Phéniciens, ces courtiers naturels du commerce des deux puissances rivales, passaient d'un parti à un autre, suivant l'intérêt du moment. Car cette lutte fut longue et soutenue. Il ne s'agissait de rien moins que de l'existence commerciale de l'un ou l'autre de ces puissants empires. Les expéditions militaires du pharaon Tchétchonk Ier et celles de son fils Osorkon Ier, qui parcoururent l'Asie occidentale, maintinrent, pendant quelque temps, la suprématie de l'Égypte. Elle eût pu jouir longtemps du fruit de ses victoires si une invasion des Éthiopiens ou Abyssins n'eût tourné toute son attention du côté du Midi. Ses efforts furent inutiles. Sabacon, roi des Éthiopiens, s'empara de la Nubie et passa la dernière cataracte avec une armée grossie de tous les peuples barbares de l'Afrique. L'Égypte succomba après une lutte dans laquelle périt son pharaon Bokhor. La domination du conquérant éthiopien fut douce et humaine. Il rétablit le cours de la justice interrompue par les désordres de l'invasion. Son second successeur, éthiopien comme lui, porta ses armes en Asie et fit une longue expédition dans le nord de l'Afrique. L'histoire dit qu'il en soumit toutes les peuplades jusqu'au détroit de Gibraltar. Le roi nommé Taharaka a bâti un des petits palais de Medinet Habou encore existant. Mais peu de temps après lui, la dynastie éthiopienne fut chassée d'Égypte et une famille égyptienne occupa le trône des pharaons. Ce fut la 26e dynastie, appelée Saïte parce que son chef, Stéphinati, était né dans la ville de Saï, aujourd'hui Sa'el-Hagar, en Basse-Égypte. Cette dynastie s'étant affermie, voulut relever l'influence de la patrie sur les États asiatiques voisins et ressaisir ainsi la suprématie commerciale. Le roi Psamtik Ier ouvrit aux marchands étrangers le petit nombre de ports que la nature a accordé à l'Égypte et parmi lesquels on comptait déjà celui d'Alexandrie, qui alors n'était qu'une fort petite bourgade appelée Rakoti. Ce pharaon se lia principalement avec les Ioniens et les Cariens, peuples grecs établis en Asie. Non seulement il permit aux négociants de ces nations de s'établir en Égypte, mais il commit l'énorme faute de leur concéder des terres et de prendre à sa solde un corps très considérable de troupes ioniennes et cariennes. Les soldats égyptiens qui, comme membres de la caste militaire, avaient seuls le privilège de combattre pour l'Égypte, s'irritèrent de ce que leur roi confiait la défense du pays à des étrangers et à des barbares, fort en arrière encore de la civilisation égyptienne. Psamtik eut, de plus, l'imprudence de donner à ces Grecs les premiers postes de l'armée. L'irritation des soldats égyptiens fut à son comble. Ourdissant un vaste complot qui embrassa la presque totalité des membres de la caste militaire, plus de 100 000 soldats égyptiens quittèrent spontanément les garnisons où le roi les avait confinés et, abandonnant leur patrie, passèrent les cataractes pour aller se fixer en Éthiopie, où ils établirent un état particulier. Ainsi, privés tout à coup de la masse presque entière de ses défenseurs naturels, l'Égypte déchut rapidement et la perte de son indépendance politique devint inévitable. Les rois de Babylone, connaissant la plaie incurable de l'Égypte, leur rival, redoublèrent d'efforts. La Syrie devint le théâtre perpétuel du conflit sanglant des deux peuples. Nécho II, fils de Psammétique Ier, refoula d'abord les Babyloniens ou Assyriens dans leurs frontières naturelles et chercha dès lors à donner de nouvelles voies au commerce en portant tous ses soins vers la marine. Une flotte sortie de la mer Rouge reconnut et explora tout le contour de l'Afrique, doubla le cap le plus méridional et, faisant voile vers le nord, arriva au détroit de Gibraltar, rentrant ainsi en Égypte par la Méditerranée. Ce roi exécuta aussi de grands travaux pour le canal de communication entre le Nil et la mer Rouge. La fin de son règne fut malheureuse. Le roi de Babylone, Nebuchadnezzar, défit les armées égyptiennes et les chassa de la Phénicie, de la Judée et de la Syrie entière. Psammétique II, son fils, essaya vainement de ressaisir ses provinces détachées de l'Empire égyptien. Son successeur, Ouafré fut plus heureux. Il remit sous le joug les peuples de Sour et de Saïd et l'île de Chypre, mais il échoua en Afrique dans une expédition contre la ville de Cyrène, Gréna. Cette malheureuse campagne porta à son comble l'exaspération de ceux qui restaient de la caste militaire égyptienne. Sa haine contre le pharaon Ouafré, qui s'entourait de troupes ioniennes ou grecques, malgré la terrible leçon donnée à son bisaïeul Psammétique Ier, éclata tout à coup et les soldats égyptiens révoltés, mettant la couronne sur la tête d'un courtisan nommé Amasis, marchèrent contre Ouafré, qui fut vaincu et entièrement défaite à Mariout, où il combattit à la tête de ses troupes étrangères. Amasis gouverna pendant 42 ans. Son règne fut heureux et paisible. Le commerce reprit un grand essor, et les richesses affluaient en Égypte, non qu'elle fût forte par elle-même, non qu'elle eût reconquis par les armes son influence au dehors, mais parce que dans ce temps-là, les rois de Babylone cessaient de menacer l'Égypte pour résister au peuple de la Perse, réuni sous un seul chef, Cyrus, qui attaqua impétueusement la Syrie et en fit graduellement la conquête, terminée par la prise et l'asservissement de Babylone. Dès ce moment, Amasis prévit la fin prochaine de la monarchie égyptienne. La dernière guerre civile avait affaibli ce qui restait de l'armée nationale, presque entièrement désorganisée par l'impolitique de ses prédécesseurs. Il ne pouvait compter sur la fidélité des troupes grecques, qu'il avait retenues aussi à sa solde. Mais, heureux en ce qui le touchait personnellement, Amasis mourut après un règne prospère, au moment même où les armées persanes s'ébranlaient pour fondre sur l'Égypte. À peine monté sur le trône que lui laissait son père, Psammétique III, nommé aussi Psamménis, dut courir à Peluse, Thinée ou Pharama, la plus forte des places de l'Égypte du côté de la Syrie. Là, il rassembla tout ce qui lui restait de la caste militaire égyptienne et les troupes étrangères qu'il avait à sa solde. Les Perses, sous la conduite de leur roi Cambyse, fils de Cyrus, favorisé par les Arabes, traversent sans obstacle le désert qui sépare la Syrie de l'Égypte. Et cette immense armée se rangea en face des Égyptiens, campés sous les murs de Péluse. Le combat fut long et terrible. À la chute du jour, les Égyptiens plièrent, accablés sous le nombre. Cambyse vainquit, et l'indépendance nationale de l'Égypte fut à jamais perdue. Les Perses poursuivirent leur succès et prirent Memphis d'assaut. Cette capitale fut livrée au pillage. La nation persane, encore barbare, porta de tous côtés la destruction et la mort. Thèbes fut saccagée, ses plus beaux monuments démolis ou dévastés. La population, courbée sous un joug tyrannique, fut livrée à la discrétion des satrapes ou gouverneurs établis pour les rois de Perse. Les arts et les sciences disparurent presque entièrement de ce sol qui les avait vus naître. Quelques chefs égyptiens, pleins de courage, arrachèrent momentanément leur patrie à la servitude. Mais leurs généreux efforts s'épuisèrent bientôt contre la puissance toujours croissante de l'Empire persan. Ce fut Alexandre, Iskander, qui, à la tête d'une armée de Grecs, renversa la domination des Perses en Asie, et l'Égypte respira enfin sous ce nouveau maître. À la mort de ce grand homme, qui avait fondé la ville d'Alexandrie, parce que cette position géographique semblait appelée à devenir le centre du commerce du monde, les généraux grecs partagèrent ses conquêtes. Ptolémée, l'un d'eux, se déclara roi d'Égypte et fut le chef de la dynastie grecque qui gouverna l'Égypte pendant près de 3 siècles. Sous ses rois, qui tous ont porté le nom de Ptolémée, la ville d'Alexandrie accomplit les prévisions d'Alexandre. Elle devint l'entrepôt du commerce de l'Asie et de l'Afrique entière avec l'Europe, qui alors comptait un assez grand nombre de nations civilisées. Mais les débauches et la tyrannie des derniers rois grecs préparèrent la chute de leur domination. Cette famille fut détrônée par César Auguste, empereur des Romains, et l'Égypte, perdant pour toujours le nom même de nation, devint une simple province de l'Empire romain et fut gouvernée par un préfet. Dès ce moment, elle suivit la bonne et la mauvaise fortune de l'Empire dont elle dépendait, jusqu'à ce que les Arabes musulmans en firent la conquête au nom du calife Omar, sous la conduite de son général Amru ibn el-As. Deuxième appendice. Note remise au vice-roi pour la conservation des monuments de l'Égypte. Alexandrie, novembre 1829. Parmi les Européens qui visitent l'Égypte, il en est, annuellement, un très grand nombre qui, n'étant amenés par aucun intérêt commercial, n'ont d'autre désir ou d'autre motif que celui de connaître par eux-mêmes et de contempler les monuments de l'ancienne civilisation égyptienne, monuments épars sur les deux rives du Nil et que l'on peut aujourd'hui admirer et étudier en toute sûreté, grâce aux sages mesures prises par le gouvernement de Son Altesse. Le séjour plus ou moins prolongé que ces voyageurs doivent faire nécessairement dans les diverses provinces de l'Égypte et de la Nubie tourne à la fois au profit de la science qu'ils enrichissent leurs observations et à celui du pays lui-même par leurs dépenses personnelles, soit pour les travaux qu'ils font exécuter, soit pour satisfaire leur active curiosité, soit même encore pour l'acquisition de divers produits de l'art antique. Il est donc du plus haut intérêt pour l'Égypte elle-même que le gouvernement de Son Altesse veille à l'entière conservation des édifices et monuments antiques. L'objet et le but principal des voyages qu'entreprennent, comme à l'envi, une foule d'Européens appartenant aux classes les plus distinguées de la société. Leurs regrets se joignent déjà à ceux de toute l'Europe savante, qui déplore amèrement la destruction entière d'une foule de monuments antiques, démolis totalement depuis peu d'années, sans qu'il en reste la moindre trace. On sait bien que ces démolitions barbares ont été exécutées contre les vues éclairées et les intentions bien connues de Son Altesse, et par des agents incapables d'apprécier le dommage que, sans le savoir, ils causaient ainsi au pays. Mais ces monuments n'en sont pas moins perdus sans retour, et leur perte réveille, dans toutes les classes instruites, une inquiète et bien juste sollicitude sur le sort à venir des monuments qui existent encore. Voici la note nominative de ceux qu'on a récemment détruits. Premièrement, tous les monuments de Cheikh Abadé, il ne reste plus debout que quelques colonnes de granit. Deuxièmement, le temple d'Ashmounein, l'un des plus beaux monuments de l'Égypte. Troisièmement, le temple de Kaou el-Kébir, ici le Nil a autant détruit que les hommes. Quatrièmement, un temple au nord de la ville d'Esné. Cinquièmement, un temple vis-à-vis Esné, sur la rive droite du fleuve. Sixièmement, trois temples à El-Kab ou El-Aïtz. Septièmement, deux temples dans l'île vis-à-vis la ville d'Oswan, Jésiret-Oswan. Ce qui fait une perte totale de 13 ou 14 monuments antiques, du nombre desquels trois surtout étaient du plus grand intérêt pour les voyageurs et les savants. Il est donc urgent et de la plus haute importance que les vues conservatrices de Son Altesse, étant bien connues de ses agents, ceux-ci les suivent et les remplissent dans toute leur étendue. L'Europe entière sera reconnaissante des mesures actives que Son Altesse voudra bien prendre pour assurer la conservation des temples, des palais, des tombeaux et de tous les genres de monuments qui attestent encore la puissance et la grandeur de l'Égypte ancienne, et sont en même temps les plus beaux ornements de l'Égypte moderne. Dans ce but désirable, Son Altesse pourrait ordonner deux points. Premièrement, qu'on n'enlevât sous aucun prétexte aucune pierre ou brique, soit ornée de sculptures, soit non sculptée dans les constructions et monuments antiques existant encore dans les lieux suivants, tant de l'Égypte que de la Nubie. Deux points. Premièrement, en Égypte. San, sur le canal de Moez, Basse-Égypte. Babeït, près de Samanoud, Basse-Égypte. Sa-el-Hagar, Basse-Égypte. Kasr el-Kerun, dans la province de Fayyum. Cheikh Abadé, pour le peu qui reste. El-Araba, ou Madfouné, au-dessus de Jirje. Keft, Kous, Kourna et environ. Medineh Habou et environ. Luxor, El-Oxour. Karnak et environ, Medamoud, Erment, Taoud vis-à-vis Erment, sur la rive droite, Esne, Edfu, Kum Ombu, Oswan, quelques débris. Jésiret Oswan, quelques débris. Deuxièmement, en Nubie, au-delà de la première cataracte, Jésiret El Birbe, Jésiret Beje, Jésiret Sehele, Debonde, Garbidandur, Beit Wali, près de Kalabshi, Kalabshi, Jirshe Hassan, ou Jerf Hossein, Dake, Maharaka, Wadi Essebua, Amada ou Amadon, Deri, Ibrim, Ipsambul ou Abu Sembil, Gebel Ade, Mashakit, Wadi Halfa, quelques débris sur la rive gauche. Troisièmement, au-delà de la seconde cataracte, Séné, Soleb, Barkal, Assur, Naga et autres lieux où existent des monuments antiques jusqu'à la frontière du Sennaar, où il n'en existe plus. Deuxièmement, les monuments antiques creusés et taillés dans les montagnes sont tout aussi importants à conserver que ceux qui sont construits en pierre tirée de ces mêmes montagnes. Il est urgent d'ordonner qu'à l'avenir, on ne commette aucun dégât dans ces tombeaux dont les fellahs détruisent les sculptures et les peintures, soit pour se loger ainsi que leurs bestiaux, soit afin d'enlever quelques petites portions de sculptures pour les vendre aux voyageurs en défigurant pour cela des chambres entières. Les principaux points à recommander sont en particulier les grottes Magara des montagnes voisines de Saqqara, Beni Hassan et environ, Touna Gebel, El Tel, Samoun près de Man Falut, El Eitz ou El Kab, El Araba, Kourna et environ, Biban El Molouk près de Kourna, Gebel Selsele. C'est dans les monuments de ce genre qu'ont journellement lieu les plus grandes dévastations. Elles sont commises par les fellahs, soit pour leur propre compte, soit surtout pour celui des marchands d'antiquités qui les tiennent à leur solde. Je sais même, à n'en pas douter, que des édifices ont été détruits par ces spéculateurs européens, sur l'espoir de découvrir quelques objets curieux dans les fondations. Mais les grottes sculptées ou peintes et que l'on découvre chaque jour à Saqqara, à El Araba, à Kourna, sont à peu près détruites presque aussitôt qu'on en a fait l'ouverture par l'ignorance et l'avidité des fouilleurs ou de leurs employés. Il serait plus que temps de mettre un terme à ces barbares dévastations qui privent à chaque instant la science de monuments d'un haut intérêt et désappointe la curiosité des voyageurs, lesquels, après tant de fatigue, n'ont souvent ainsi que des regrets à exercer sur la perte de tant de sculptures ou de peintures curieuses. En résumé, l'intérêt bien entendu de la science exige non que les fouilles soient interrompues, puisque la science acquiert chaque jour, par ses travaux, de nouvelles certitudes et des lumières inespérées, mais qu'on soumette les fouilleurs à un règlement tel que la conservation des tombeaux découverts aujourd'hui et à l'avenir soit pleinement assurée et bien garantie contre les atteintes de l'ignorance ou d'une aveugle cupidité. Appendice numéro 3. Lettres écrites par Mohamed Mamour, ou préfet de Tarta, à Champollion. Numéro 1. Lettre du Mamour. Lui, Dieu. Oh, le plus cher des amis, le trésor des compagnons, notre ami chéri, le très honoré, le général, le seigneur, le respectable, que le Dieu très haut le conserve. Après la présentation de mes salutations avec le plus vif désir de vous voir, le but de cet écrit est, premièrement, de m'informer de votre glorieuse personne. Deuxièmement, hier nous convînmes avec votre excellence qu'au jour de la date de cette lettre, nous resterions ensemble pour nous voir et pour augmenter l'amitié. Au jour de la date, nous fîmes les préparatifs convenables. Mais nous sommes allés le matin à Terra pour une affaire et au retour, nous avons vu que vous étiez parti en bonne santé. Par suite de cela, vous avez une dette à acquitter envers nous. Mais nos réclamations sont pour l'époque de votre heureux retour, lorsque nous vous reverrons dans la plus parfaite santé. Vous recevrez Salamé et Nicolas, deux serviteurs du Mamour, l'un arabe, l'autre grec. Que le Dieu Très-Haut vous ramène sain et sauf, et puissions-nous vous revoir, eux et votre excellence, doués de la plus parfaite santé. Que le Dieu Très-Haut vous conserve. Écrit le 3 de Jumadi 1er de l'année 44, ou 1244 de l'Égir, 14 novembre 1828 de Jésus-Christ. De la part de l'ami Mohamed Mamour de Tarta et de Djerje. Numéro 2. Autre lettre du Mamour. Lui, Dieu. Oh, le plus cher des amis, le trésor des compagnons, notre ami chéri, le bey magnifique, que sa vie soit longue. Après vous avoir présenté mes salutations avec le plus vif désir de vous voir, l'objet de cet écrit est, premièrement, de m'informer de l'état de votre glorieuse personne et de votre tempérament agréable, élégant et fort. Deuxièmement, de faire parvenir à votre excellence la lettre que vous avez demandée pour son excellence, notre frère chéri, le Mamour Desné. Plaise au Dieu très haut que vous voyagiez en bonne santé et que vous arriviez de même. Puissions-nous revoir votre excellence comblée de toutes sortes de biens. Présentez nos salutations à nos honorables amis qui sont en votre compagnie, et envoyez-nous de vos nouvelles. Que le Dieu Très-Haut vous conserve. Écrit le 4 de Jumadi 1er, etc. Les lettres qu'on vient de lire étaient enfermées dans une enveloppe avec l'adresse suivante. Qu'elles parviennent au plus honorable des amis, au trésor des compagnons, notre ami chéri, le français fils de Bey, le magnifique, qu'il vive longtemps au sein du bonheur. Numéro 3. Lettre de Champollion le Jeune au Mamour. Monsieur, cher et unique ami, Monsieur Mohamed Bey, que le Dieu très haut le conserve. Après les salutations précieuses et le grand désir de votre agréable présence, le motif de la présente est que, dans ce moment, nous recevons votre chère lettre et votre discours m'a réjoui et je remercie le ciel de votre santé dont je désire la continuation et à laquelle je dois la lettre dont vous m'avez gratifié pour le commandement d'Esné, de laquelle nous vous sommes infiniment obligés. Or, ma présence servira, premièrement, à m'informer de votre chère santé. Deuxièmement, si vous désirez des nouvelles de la nôtre, grâce au ciel, nous sommes parfaitement bien portants et nous en désirons autant et plus à vous, et nous ne serions jamais en état de vous manifester le grand chagrin que nous éprouvâmes de votre séparation. Mais nous prions le ciel que, comme il nous a séparés, il daigne nous réunir de nouveau, car il est le Très-Puissant. Et alors, à notre heureux retour, s'il plaît à Dieu, et possédant votre chère présence, nous nous acquitterons de ce qui est de notre devoir. Cela et rien de plus. Que Dieu allonge votre vie. Mes salutations à qui vous croirez de convenance. Votre ami, Champollion. 15 novembre 1828. Fin des appendices aux lettres écrites d'Égypte et de Nubie en 1828 et 1829 par Jean-François Champollion. Maintenant, chers amis auditrices et auditeurs, nous voici arrivés à la fin de ce long récit archéologique relatant les voyages d'exploration et de découverte de Jean-François Champollion en Égypte, ainsi qu'en Nubie. J'implore l'indulgence de nos amis égyptologues, car je me doute très bien que lors de toute cette lecture, j'ai dû commettre de nombreuses fautes de prononciation dans les noms de lieux ainsi que dans les noms des personnages, et j'ai aussi éprouvé quelques difficultés lors de l'apparition de certains mots écrits en grec. Je vous avoue que ni le grec ancien, ni la langue en vigueur à l'époque des rois pharaoniques d'Égypte me sont connus. Je ne vous cache pas non plus que cette lecture a été pour moi une de mes plus difficiles, pour cette raison. Elle n'était pas sans me rappeler tous les problèmes que j'ai connus lors de l'enregistrement de la guerre des Gaules, où je devais souvent prononcer toutes sortes de noms, parfois très bizarres, du moins à des oreilles modernes, de tribus de la Gaule, sans parler, encore une fois, des noms des personnages. J'espère en tout cas que ces quelques petites lacunes de ma part en ce domaine n'auront pas distrait l'auditeur du message que Jean-François Champollion cherchait à transmettre. Un grand merci particulier à tous ceux et celles qui m'auront écouté jusqu'à la fin. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous de nombreuses autres lectures intéressantes sur littératureaudio.com. Portez-vous tous très bien en 2010. C'est J.F. Leblanc qui vous a parlé depuis la grande ville de Montréal au Québec ce 4 janvier 2010.